la gloire.
Alléluia, la gloire de Dieu est au milieu de nous. La gloire, la gloire de ta dans les corps, si vous croyez en ma puissance pour transformer des vies, changer le cœur d'un homme, d'une femme, le Seigneur nous dit cet après-midi, croyez aussi en ma puissance pour guérir des couples et des relations brisées.
Amen.
Je suis le même, si je guéris des corps, si je change des cœurs, je peux aussi réparer les brèches que l'ennemi a fait dans vos couples aussi. Dans certains couples ici.
Alléluia.
Croyez que je suis le Dieu Tout-Puissant, créateur d'un homme et d'une femme. Et si je suis le créateur d'un homme et d'une femme, je sais aussi être le médiateur entre un homme et une femme pour les réconcilier.
Amen.
Quand il le faut. Si je suis le médiateur entre Dieu et les hommes, je suis aussi le médiateur dans un couple.
Amen.
Entre le mari et la femme.
Gloire.
Alléluia! Merci,
Alléluia.
Seigneur! Nous croyons en ta puissance.
Gloire.
Nous croyons que ce que tu peux faire dans un couple, tu peux le faire dans
Alléluia.
Tous les couples du monde. Si nous te donnons l'autorisation et la permission de le faire,
Alléluia.
Et nous sommes à ta disposition, Seigneur, cet après-midi.
Béni sois-tu, Seigneur.
Touche-nous. Touche-nous dans tous les domaines.
Amen.
Où nous avons besoin d'être touchés.
Alléluia.
Oh, nos regards sont sur toi, Seigneur.
Béni.
Tu es bon et compatissant, plein de tendresse, plein d'amour, plein de pardon pour toutes les choses que nous avons mal faites, si nous les reconnaissons. Merci, Seigneur, de ce que tu es le réparateur des brèches.
Amen.
j'ai comme ce sentiment que le Seigneur est au milieu de nous comme un médecin cet après-midi. Un médecin. Nous pouvons être atteints de différentes maladies, nous pouvons avoir certains problèmes. Mais un médecin, avant de prescrire de remèdes et de médicaments, il faut d'abord qu'il fasse un diagnostic de ce qui est bon en nous, de ce qui est moins bon, de ce qu'il faudrait, de la maladie que nous pouvons avoir ou des faiblesses que nous pouvons avoir pour donner le bon médicament. Le doigt de Dieu est obligé de se mettre sur une de nos plaies, peut-être. Peut-être que ça fera un peu tilt en vous quand vous entendrez certaines choses. Eh bien, à ce moment-là, il s'agit d'être devant notre divin médecin et de lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu, si j'ai ce problème, eh bien, je te l'apporte. Donne-moi, aide-moi dans ce problème. Je veux que ça change dans mon couple. Je veux ne pas toujours tomber dans les mêmes travers et rester la même avec mon mari. Dans cette même relation que peut-être nous avons eue pendant des années, nous, personnes plus âgées, nous avons encore besoin de changer, même dans notre âge un peu avancé. Jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons à changer. Le Seigneur a des choses à nous montrer jusqu'à la fin. Et nous avons des choses à changer et à remédier. Alors, le titre de mon message est celui-ci. Les principales causes de faillite d'un couple et leur remède biblique. Ou si vous voulez, on pourrait donner un autre titre qui dirait « Comment régler les conflits dans notre couple ?» Et vous savez, on ne se fait pas d'illusions. Nous, on a eu nos tensions, vous en avez. Il n'y a pas de couple parfait dans le monde, ça n'existe pas. Un couple qui n'a jamais de tensions, jamais de problèmes, ça n'existe pas. Et si vous me dites « Moi, nous, on n'en a pas, jamais », je ne vous croirai pas. Parce que nous sommes des êtres qui ne sommes pas parfaits. Donc nous ne pouvons pas avoir des relations parfaites. Nous avons besoin du divin Seigneur qui rend nos relations parfaites. Et nous tendons vers la perfection. En plus. Et jusqu'à la fin de nos jours. Alors, en regardant le désordre qu'il y a dans notre société actuelle, au niveau familial, moral, nous sommes obligés de constater que chaque mariage aujourd'hui est plus ou moins hypothétique, c'est-à-dire pas certain de réussir dès le premier jour à cause de l'éventualité d'un divorce aujourd'hui. Les divorces sont vraiment à la page. On dit que un couple sur deux, en tout cas, divorce. Hein. Dans certains pays, même plus. Les familles recomposées, les familles monoparentales sont légion. L'adultère fait aujourd'hui sourire. C'est normal, dit-on. Ce fléau a malheureusement même contaminé nos milieux chrétiens. Et ça, c'est dramatique. De nombreux couples sont chancelants. Et souvent divorce, même parmi les chrétiens, et malheureusement, mais je dis bien même parmi les pasteurs, de plus en plus. On le sait. Donc, que celui qui est debout ne prenne garde, nous avons tous à prendre garde, tous, les uns et les autres. Leurs relations sont perturbées, ce qui rend petit à petit leur cohabitation difficile. En tant que couple chrétien, nous devons apprendre à remettre les priorités conjugales à leur place et nous réorganiser notre vie selon les principes bibliques. Avant de vous donner plusieurs raisons qui peuvent amener un couple à la faillite, je vous donnerai un exemple qui nous servira de mise en garde et nous montrera le sérieux qu'il faut accorder à notre santé et à la santé de notre couple et de nos relations conjugales. Nous savons que dans chaque couple, il y a des tensions, comme je l'ai dit, et qu'aucun couple n'est parfait. Non, nous devons tous être extrêmement vigilants, car l'ennemi rôde, toujours quelque part, cherchant à nous déstabiliser dans notre harmonie conjugale. Alors, je vais vous lire l'histoire d'une femme particulièrement désespérée que je lisais dans un magazine allemand. Et cette histoire vous montrera dans quelle dramatique circonstance on peut tomber quand on ne veille pas à notre santé spirituelle et conjugale. Alors cette dame, elle raconte, avec mon mari, nous nous disputions et nous nous blessions constamment, presque sans interruption. Nos enfants en souffraient terriblement. Mon mari, à maintes reprises, m'a promis fidélité, mais n'a jamais tenu. Il recommençait toujours à m'être infidèle. En dépit de ses promesses, il continuait à me tromper. Je me suis mise, alors cette pauvre femme, elle dit, je me suis mise à boire. Jusqu'à ce que finalement, mon mari en ait tellement marre de moi qu'il s'est suicidé. Cette dame termina son histoire en disant, « Et moi, quand mon mari s'est suicidé, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis mise à boire de plus belle. » Quel drame ! Quel drame ! Une vie qui en entraîne une autre dans la faillite. Dans la faillite totale, là. Jusqu'à la mort. C'est grave. Les conséquences d'un divorce ou d'une mésentente conjugale peuvent aller très loin, vous le savez aussi bien que moi. Et donc, nous devons d'autant plus veiller à la santé de nos relations de couple. Quel cercle vicieux dans ce couple. Certainement que ce couple-là n'était pas un couple chrétien, ils ne se sont pas mariés devant le Seigneur non plus, mais juste pour dire que le divorce a plusieurs causes. Puisse le Seigneur nous aider à détecter à temps, je dis bien, au bon moment, ce qui pourrait être une cause grave, qui pourrait nous conduire à une faillite un peu plus grande. Donc, il faut régulièrement, c'est bien de faire régulièrement le diagnostic de notre santé spirituelle dans le couple, de temps en temps, une petite confrontation, ça fait du bien, un petit dialogue, et où est-ce qu'on en est ? Est-ce que notre couple va bien ? Et surtout, surtout, apprendre à régler les conflits au fur et à mesure qu'ils se présentent. Et ne pas laisser passer du temps par-dessus le conflit, ce qui ne ferait qu'aggraver la chose. Donc, être conscient que notre couple peut se détériorer petit à petit, une petite faille par-ci, une petite faille par-là. Et si ce n'est pas réglé, eh bien la faille, elle grandit. Elle grandit, elle grandit, et pour finir, il y a un véritable gouffre entre nous. Et on n'arrive presque plus à le régler. C'est ça qui conduit à la faillite, c'est ça qui conduit au divorce, finalement, à la séparation d'abord, ensuite au divorce. Alors, je relèverai 10 mauvaises réactions, ou tendances, ou attitudes, qui peuvent nous faire chuter si nous ne veillons pas. Chacune d'elles, chacune de ces tendances et de ces réactions peuvent trouver leur remède dans la parole de Dieu. C'est ça qui est bon. Alors, et chacune de ces mauvaises tendances ou de ces mauvaises réactions que nous avons l'un à l'égard de l'autre peuvent être comme des armes destructrices qui rongent notre santé de couple. Donc, il faut y remédier. Il faut y remédier. Alors, je prendrai donc 10 mauvaises tendances, 10 réactions, 10 attitudes que nous devons bannir ou à laquelle nous devons travailler pour y remédier. La première réaction négative, c'est l'égoïsme dans le couple. Chacun pensant plus à lui-même qu'à l'autre. Est-ce l'esprit du Seigneur, ça? Certainement pas. Le mariage, c'est un homme et une femme qui s'engagent dans une communion définitive, l'un avec l'autre, selon la Bible. Les deux conjoints portent la responsabilité du succès du couple, les deux. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Les deux sont responsables. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, trop gâtés, ont eu une vie trop facile. Et plus la vie a été facile, plus ils fuient leurs responsabilités et plus ils ne désirent qu'une chose, se réaliser eux-mêmes. Leurs ambitions, leurs désirs, même au sein du couple. Au lieu de chercher à harmoniser leurs désirs avec ceux de leur conjoint, alors ça ne marche pas. Pour harmoniser tout cela, il faudra que les deux conjoints acceptent de renoncer chacun à son confort, à ses aises respectives. L'égoïsme, c'est en principe surtout la réalisation de soi-même, de ses ambitions. Et ça marche de pair avec l'irresponsabilité. Donc c'est tout à fait contraire à ce que le Seigneur attend de nous. Alors le remède biblique maintenant à l'égoïsme de chacun des conjoints, c'est bien sûr, vous l'avez deviné, je pense, c'est s'oublier soi-même. Se donner, se sacrifier pour son mari, servir son mari à l'exemple du Seigneur, renoncer à soi, s'oublier, réaliser la responsabilité que Dieu nous a confiée en nous accordant le merveilleux mari qu'il nous a donné, les enfants qu'il nous a donnés, être dans un esprit de service. Alors je prendrai donc, vous pouvez noter ça, pour l'égoïsme, c'est Galates 5, 13. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Nourrir son égoïsme, c'est nourrir les désirs de la chair. Donc, combattons l'égoïsme dans notre propre cœur, chacun de nous. Et soyons dans l'esprit du Seigneur dans le couple, à nous servir l'un l'autre, à nous oublier nous-mêmes. Et aussi Galates 5, 16, un autre remède, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de
la chair.
Voilà. L'égoïsme, c'est un fruit de la chair. Et nous devons crucifier la chair. C'est bien clair. Et toutes ces tendances, et toutes les tendances que je vais vous dire, ce sont tout simplement les œuvres de la chair. Mais il faut les crucifier. Il faut y renoncer. Et il faut le vouloir. Et il faut le décider. C'est une décision qu'on prend. Ça ne tombe pas du ciel comme ça tout seul. Il faut y travailler. Y travailler. La deuxième arme destructrice, ou si on peut dire tendance ou réaction, que nous devons refuser, c'est la méfiance. On rencontre dans les entretiens que nous avons avec les uns les autres, parfois des couples qui sont tombés dans une sorte de méfiance l'un à l'égard de l'autre. On n'a plus tout à fait confiance dans notre conjoint, dans un domaine ou dans un autre. Et là, il s'agit d'y remédier aussi. On dit que un proverbe russe dit qu'un couple sans confiance mutuelle est comme un arbre déraciné. Réfléchissons à ce que cela veut dire. Un couple sans confiance mutuelle, avec de la méfiance, est comme un arbre déraciné. Il lui manque la fondation, le terrain favorable à sa croissance. Comme l'être humain qui ne peut pas vivre sans l'apport d'oxygène, ainsi un couple sans confiance mutuelle ne peut subsister et court tôt ou tard à la faillite. Si nous n'avons pas confiance en notre conjoint, il se créera automatiquement une distance entre lui et moi. Je vais commencer à soupçonner mon mari. Et il me sera de plus en plus difficile de me donner à lui. La conséquence de ça, de la méfiance. Mon dévouement pour lui va battre de l'aile et je commencerai à ne plus être heureuse ni contente. Le remède biblique à cela. 1 Corinthiens 13, 5, notez. Remède à la méfiance dans le couple.
1 Corinthiens 13:5.
L'amour ne soupçonne pas le mal. Il y a une réponse à tous nos problèmes dans la parole de Dieu. Tous, chacun. La confiance, c'est croire en son mari. C'est compter sur lui. C'est être bienveillant. C'est être compréhensive à son égard. Combien nous avons besoin de grandir. J'ai besoin de grandir encore. Une troisième réaction que nous devons bannir de nos couples, c'est le silence mal placé. Il y a des silences qui sont bien placés, mais il y en a qui sont mal placés aussi. Nous pouvons avoir différentes raisons pour nous taire, mais le silence est peut-être, comment dire, est peut-être une façon de vouloir régler le problème nous-mêmes. Chacun de nos silences est peut-être une suggestion et contient un message. Se taire au lieu de parler, c'est une rupture de dialogue. Et il faut absolument veiller à ce qu'il n'y ait justement pas de rupture de dialogue jamais. Parce que c'est là que tout commence. S'il y a une rupture de dialogue, alors chacun commence à s'enfiler dans sa tour d'ivoire et puis ça y est, la différence là, on s'écarte l'un de l'autre et puis c'est la catastrophe. Alors, il faut éviter à tout prix, toute rupture de dialogue. Et quand on se tait, on a comme peur d'exprimer sa pensée. Et on pense que, si je vais lui dire ceci, cela, lui, il va peut-être se servir de cette arme contre moi un jour ou l'autre. Alors on se tait. Est-ce que ça règle le problème? Rien du tout. Ça ne règle rien du tout. Nous devons être transparents l'un à l'égard de l'autre. Et nous devons marcher dans la lumière l'un à l'égard de l'autre. Et ne pas se cantonner dans le silence. Se taire peut être utilisé comme une arme destructrice. Et si moi je me tais, mon mari voudrait peut-être dialoguer, il voudrait peut-être qu'au contraire, mon silence le fait souffrir. Alors il se fâche, il est blessé. Et le silence ne résoudra aucun problème. Cherchons au contraire le dialogue et nous résoudrons nos problèmes. Alors le remède biblique à cela. Remède biblique. Éphésiens 5, 8. Remède au silence. Marcher comme des enfants de lumière. Se taire, c'est pas marcher dans la lumière. C'est tout garder à l'intérieur. Et puis c'est nourrir la rancune et l'amertume. C'est tout ce que ça fait. Et ça ne règle rien du tout. Donc, se taire, c'est ne pas marcher dans la lumière. Alors comment voulez-vous que le Seigneur nous aide à arranger les choses si on garde tout là et qu'on ne dit rien? C'est pas la solution. Se dire les choses, c'est marcher dans la lumière et dans la vérité l'un à l'égard de l'autre. Une quatrième réaction à bannir, c'est avoir toujours le dernier mot. Vouloir avoir toujours le dernier mot. On se connaît. Chacun de nous, on veut.
Sa puissance accomplie dans notre faiblesse. La vraie puissance se manifeste dans cet esprit-là. Si nous sommes imbus de nous-mêmes, nous allons nous égarer dans des voies de travers qui nous conduiront peut-être même dans la perdition. Sa puissance se manifeste toujours dans un grand sentiment de faiblesse. C'est pourquoi c'est quand je suis faible que je suis fort. Qui est-ce qui a dit cela? C'est Paul. Ah bon? Ah, c'est comme ça? Il était faible? Ah bon? Moi, j'aurais pas cru. Aujourd'hui, on entendait des prédicateurs, jamais ils osent dire qu'ils sont faibles. Jamais ils osent dire qu'ils sont faibles. La seule chose qu'ils disent, je suis fort. Je peux tout. Oui, on peut tout par Christ, mais par Christ. Par Christ, pas par nous-mêmes. Et si nous n'en sommes pas vraiment convaincus, le Seigneur nous fera passer par de tristes expériences. Car il tolère certaines choses jusqu'à un certain point. Parce qu'il est plein de grâce aussi. Mais si nous devons apprendre une leçon salutaire, dans son amour, il permettra des expériences cuisantes qui seront pour notre salut. Puissions-nous avoir à ce moment-là l'humilité de reconnaître nos fautes, de nous relever et de repartir sur le bon chemin. Amen. Nous voyons certainement pas Étienne en train de se vanter de sa puissance. Mes amis, on ne manipule pas Dieu. Sinon, c'est un autre esprit qui commence, avec l'esprit qui commence à agir. C'est quand je suis faible que je suis fort. Le Saint-Esprit, quand il vient, ne nous rend pas fort. Il nous rend faibles pour que par notre faiblesse, sa puissance se manifeste. Alléluia! C'est cela qu'il fait, le Saint-Esprit. Il ne vient pas nous dire, mais non, t'es fort. Non! Tu peux rien sans moi. Tu peux rien sans le Seigneur. Il nous rend conscients de notre faiblesse, afin que dans cette faiblesse, nous puissions crier à lui et dire, Seigneur, si tu n'agis pas, je suis perdu. Si tu n'agis pas, c'est la catastrophe, Seigneur. C'est dans cet esprit-là que Dieu se plaît à agir, mais non pas en s'en étant imbu de soi-même. Quelle tragédie! Il n'y a plus rien du Seigneur. Le caractère du Seigneur n'y est pas. Plein de puissance. Ne l'oublions pas, cette puissance accomplie dans la faiblesse. Alors, ne te désespère pas de ta faiblesse. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Il veut que tu en sois conscient. Mais ne perds pas courage dans ta faiblesse. Ce qu'il veut faire, tu es faible, mais regarde le Seigneur. Avec lui, tu feras des exploits, mais avec lui seulement. Regarde à lui, compte sur lui. Et tu verras Dieu agir. Amen. Et quand il en est ainsi, nous donnons certainement toujours toute la gloire au Seigneur, n'est-ce pas vrai? Car nous réalisons que nous ne sommes rien du tout. Absolument rien. Plein de puissance. Verset 15 maintenant. 6:15, une parole extraordinaire, qui est là, un verset extraordinaire. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un non. Quel verset! Quelle expérience! Il était plein de quoi, là? De lumière. Voilà, il est plein de lumière. Alléluia! La lumière, c'est quoi? C'est la pureté, la sainteté, la consécration, la pureté. Étienne, pourquoi était-il un modèle d'un chrétien rempli du Saint-Esprit? Parce qu'il était plein de lumière. Il marchait dans la lumière. Le Dieu qu'il sert est un Dieu de lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si tu veux rester rempli, des chrétiens et même certains serviteurs de Dieu, c'est la tragédie, qui vivent dans le péché, qui manifestent la puissance de Dieu. Il y a tant d'expériences comme ça. Pendant quelque temps, par exemple, ils vivaient avec une autre femme, et quand ils priaient pour les malades étaient guéris. Et vous savez comment ils raisonnent à ce moment-là, ces prédicateurs, et ça peut nous arriver nous aussi, hein. On peut penser. Comment? Ah bon? Je suis dans un état qui n'est pas vraiment à la gloire de Dieu. Et Dieu agit encore. Il y a toujours un temps de grâce avec Dieu. Amen. Toujours un temps de grâce. Dieu ne retire pas tout de suite. Ça se fait progressivement. Progressivement. Pourquoi? Parce qu'il attend la repentance. N'est-ce pas vrai? S'il enlevait toujours tout de suite, tout, dès qu'on a fait quelque chose, mais on n'aurait rien du tout, vous et moi, n'est-ce pas vrai? Personne ne pourrait garder cette onction si ça partait toujours tout de suite. Ça serait toujours progressivement. Et lui, dans sa tête, comment Dieu agit? C'est que finalement, ce péché n'est pas aussi grave que cela, à ses yeux, voyez-vous? C'est donc pas aussi grave! Et il commence à jouer avec le péché. Mais suivez ce ministère quelques années plus tard. Il sera peut-être avec sa dulcinée là-bas, mais c'est terminé, le ministère est terminé. Il n'y a plus rien du tout. Plus rien du tout! Plein de lumière. Le Saint-Esprit apporte en nous la haine du péché. Amen. Si tu caresses le péché te détruira. Si tu ne tues pas le péché te tuera. Plein de lumière. Dieu est un Dieu de sainteté. Et c'est ce qu'on reflétait Étienne, n'est-ce pas? Plein de lumière. On voyait la pureté du Maître sur son visage. Quel beau témoignage, n'est-ce pas vrai? On aurait presque voulu être là, non pas pour assister à cela, mais pour voir ce visage extraordinaire. Et c'est certainement aussi un peu à cause de cela que Paul s'est converti. Parce qu'à un moment donné, il est dit dans les actes que Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc quelque chose s'était passé en lui. Et c'est cette gloire, cette lumière, cette pureté dans la vie d'Étienne qui a profondément touché Paul et brisé ce cœur dur et orgueilleux. Amen. Cinquième plénitude. C'est tout le chapitre 7 maintenant. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit. Et là, alors, tout le chapitre 7, c'est une prédication. Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de gloire apparu à Abraham, notre père. À notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Amen. On pourrait continuer, je ne vais pas aller loin. Mais déjà pour vous dire, la cinquième plénitude ou qualité, c'est quoi? Il était plein des Écritures, plein de la parole de Dieu. Amen. Et c'est par cette plénitude de la parole en lui qu'il a pu interpréter les événements qui a pu lui arriver. Parce qu'à un moment donné, il dit, il vous a envoyé Moïse et vous l'avez rejeté, il vous a envoyé Joseph, vous l'avez rejeté, il vous a envoyé les prophètes et vous les avez rejetés. Il savait qu'ils avaient le cœur dur. Et c'est pourquoi quand ils se sont opposés à lui, il ne s'est pas rebellé, n'est-ce pas vrai? Il savait que par les Écritures, qui lui donnaient la compréhension de ce que Dieu fait, il a pu tenir le coup. Il n'a pas dit, oh Dieu, tu m'abandonnes maintenant, c'est fini. Non, au contraire, par sa connaissance des Écritures, Étienne était plein de sagesse pour comprendre ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait dans la nation d'Israël, et ce que Dieu fait maintenant de son temps, et ce que Dieu fait dans sa vie. Mes amis, écoutez-moi bien. Si nous voulons être remplis et continuellement remplis du Saint-Esprit, nous devons être remplis de la parole. Amen. Nous devons en être remplis. Nous devons la lire, la méditer, pas seulement l'entendre prêcher. La prédication est importante. Mais la prédication n'est pas un substitut à votre propre méditation, à votre propre nourriture personnelle. C'est important. Vous devez, nous devons être remplis de la parole. C'est dans cette parole-là qu'un jour, lorsque les choses n'iront pas comme tu le voudrais, tu trouveras la consolation et la réponse à tes problèmes. Amen. Et la réponse à tes pourquoi, à tes questions, sont là, dans la parole. Tout est là. Les grands principes de la parole sont là. Dans les détails, peut-être pas, bien sûr, mais les grands principes spirituels sont là. Et si nous nous en nourrissons, nous aurons des réponses. Amen. Nous aurons des réponses. Et lorsque la persécution viendra, les tribulations viendront, nous resterons debout. Et nous n'abandonnerons pas le Seigneur, comme c'est le cas avec beaucoup. Amen. Plein de la parole. Es-tu plein de la parole? Un jour, quand j'étais à l'armée, je m'étais juste converti avant d'aller à l'armée. Et je rendais témoignage à un jeune homme comme moi. Et lui, il disait qu'il connaissait aussi sa Bible. D'ailleurs, dans la conversation, d'un seul coup, il me dit, « Mais d'ailleurs, la Bible dit, aide-toi et le ciel t'aidera. » Ah, je lui dis, « C'est écrit dans la Bible, ça. Montre-moi le verset. » Je l'attends toujours, ça fait des années que j'ai fait mon service à Grenoble, là. Depuis des années, j'attends le verset « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et il était convaincu que c'était dans la Bible. On lui avait dit que c'était dans la Bible, mais il n'avait pas vérifié. Voyez-vous, bien souvent, nous aussi, on entend des gens qui nous disent « Mais c'est écrit, et on ne vérifie pas. » Et quand vous vérifiez, vous ne trouvez pas le verset. Voyez-vous comme c'est important. C'est pas parce que quelqu'un vous dit « Ah, mais c'est écrit !» Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Et non pas gober tout de suite comme cela, en faisant confiance. C'est là l'erreur avec beaucoup de chrétiens. Écoutez-moi bien, c'est important. Même avec votre pasteur, on doit faire confiance au pasteur, n'est-ce pas? Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, on ne doit pas tout gober comme cela. Ah oui, vous avez dit quelque chose là, mais je ne vois pas ça dans la Bible. Les apôtres n'ont jamais fait ça. Tais-toi! Je n'ai rien du tout, toi! Je suis pasteur, je suis prédicateur! Tais-toi! Vous voyez, quand on est embarrassé, on fait ça. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? En général, là, ils ne sont pas contents. Mais excusez-moi, ne vous fâchez pas, surtout. Je veux simplement savoir où les apôtres ont fait ça. Attends, je vais te montrer. Attends, tu vois. Tu reviendras plus là-dessus, hein. Oh, mais j'ai oublié le passage. J'avais lu ça dans un livre. Ah, dans un livre. Ah, voyez-vous, lui ici, il a été influencé par quelqu'un d'autre. Et il n'a pas vu par un autre prédicateur. Et il n'a pas. L'autre disait la parole de Dieu dit, mais il ne l'a pas vérifié. Ah, mais là, je ne trouve pas sur le moment. Je vais voir ça, je vais voir ça. Et puis, il n'y a plus de réponse, il n'y a plus rien du tout. Rempli de la parole de Dieu. Nous devons être comme les chrétiens de Béret, qui vérifiaient chaque jour dans les Écritures ce que Paul enseignait. C'était Paul, c'était un apôtre. Est-ce qu'il a été vexé, Paul? Pas du tout. Est-ce que le Saint-Esprit a été vexé? Pas du tout. Le Saint-Esprit a mis ses paroles dans la Bible. Pourquoi? Pour dire, c'est cela. C'est cela. Le Saint-Esprit est derrière la parole et derrière rien d'autre. Le Saint-Esprit est derrière la parole et rien d'autre.